Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au Sur la Terre des Hommes Podcast et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes Podcast. Si vous possédez un iPhone, prenez une minute pour nous laisser un avis. Ainsi, vous allez faire grimper le podcast dans le moteur de recherche. Finalement, si vous voulez encourager Sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. patreon.com. Recherchez Sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la Terre des Hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons éco-énergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons Nouveau Climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 252 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu?
Hey, ça va super bien, Jay. Malgré les circonstances, là, ça sent la fin de l'année. Ça sent le brûlé, mais ça sent aussi la fin de l'année.
Ça sent, on va en parler aujourd'hui, mais ça sent le feu de camping.
Ça goûte aussi. Nous autres, on goûte, y a brûlé littéralement.
Ouais. Oui, exactement. Et puis, notre cher Anthony Pomerleau, comment vas-tu?
Je me porte à ravir, les garçons.
Ah, oh, j'adore ça.
Je suis très content de voir que vous aussi.
Oui, oui, ça va très bien.
Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu dans le podcast. Je ne me rappelle pas c'est quand la dernière fois.
C'était sur... on parlait de la santé mentale.
Oui, chez les jeunes, oui.
La pandémie, exactement. Ouais,
c'était la même formule, justement, les deux amigos de leur bord.
Exact. Oui. On a trouvé vraiment quelque chose d'intéressant et puis ça me permet de voisiner mon bon ami Jérémy.
Oui,
on reste dans le même village en plus.
Oui. Là, les gens se rendent compte que c'est moi le reject dans la gang.
Oui, c'est ça. Tu es à Rouyn-Noranda, mon cher.
Oui, non, c'est ça. Il y a une distance quand même entre nous trois. Ouais.
Exact. Avant de commencer, messieurs, juste saluer parce que je l'oublie tout le temps. Mais je veux saluer les abonnés qui sont live avec nous. Un autre épisode, même si je ne suis plus un prisonnier Facebook.
Ah, t'as été libéré!
J'ai été libéré sous caution par Mark Zuckerberg. Et puis, vraiment sous caution, là. Il faut que je me calme, hein, arrêter de mettre des mimes historiques d'Henri VIII. Alors, j'ai compris ma leçon.
On apprend notre leçon, hein, c'est ça.
J'ai compris ma leçon et je te le jure, Marc, je ne le referai plus. Mais ça pour dire que c'est ça, je ne suis plus en prison Facebook. On pourrait être juste avec les patrons. Mais j'ai quand même décidé qu'au mois de juin, on allait continuer puis jusqu'aux vacances, hein, jusqu'aux vacances de juillet, mon cher Joe.
Il ne reste pas un épisode, deux épisodes?
Après ça, c'est nous autres. Là. On peut dire on en fait deux autres puis c'est fini.
On va peut-être tirer à plug.
Oui, c'est ça. On va peut-être tirer à plug pour se concentrer sur notre vrai travail, hein, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Malgré que, tu sais, juste faire une petite aparté, ça brasse pas mal en Ukraine, tu sais, avec l'explosion du barrage près de Kherson, puis peut-être la contre-offensive qui s'en vient.
Avant de parler des feux, parlons-en. Ça brasse en Ukraine, oui, comme tu...
Ça brasse vraiment beaucoup. Je pourrais pas dire exactement ce qui se passe parce que c'est pas encore clair. Oh, le feed YouTube, ça a l'air qu'il est non fonctionnel selon Technology. Bon.
C'est vraiment bizarre. C'est un de nos patrons, je te salue, mon cher, mais moi, on me dit que sur YouTube, c'est correct. Là. C'est en direct.
C'est peut-être toi le problème, man.
C'est toi le problème. C'est peut-être. Il manque de charbon. Je salue Loïc.
Loïc. Sur YouTube, donc clairement, ça fonctionne.
Ça a l'air de marcher parce que Loïc, il y a un de mes élèves.
un de mes élèves favoris. Je te salue, mon cher Loïc, qui dit bonjour. Alors, ça a l'air correct du côté de Loïc. Alors, peut-être, mon cher, que c'est de ton côté. Est-ce que j'entends les pompiers derrière toi, mon cher Joe?
Oui, probablement là, qu'il se passe quelque chose pas loin. J'espère qu'il n'y a pas un feu bien éclaté.
Oui, Paumé est sur YouTube présentement et ça marche aussi du côté à Paumé. Alors, peut-être, mon cher, voilà que ça, c'est peut-être de ton côté. Voilà. Oui, on parlait de l'Ukraine. Hein? Avant de parler de feu, parlons d'eau. Parce qu'en Ukraine, il y a un barrage qui a été, attaqué.
Un acte terroriste, littéralement.
Un acte terroriste. Et puis là, les Russes et l'Ukraine se renvoient la balle, Joe?
Oui, mais de ce que les sources, on va dire crédibles, avancent, ce serait fort probablement la Russie. Parce que c'est leur modus operandi. Et surtout parce que c'est du gros cochonnage, comme on dit. Là, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils ont fait. Des centaines de personnes qui ont déjà perdu leur maison dans l'inondation, sans compter la centrale nucléaire qui sert de cette eau-là pour se refroidir. Donc,
exactement,
les Ukrainiens n'avaient aucune raison de se saboter eux-mêmes comme ça. Je vois pas elle aurait été où la pertinence. Donc, la propagande russe, ça fonctionne à 100 000 à l'heure pour dire que c'est les Ukrainiens qui ont fait ça, mais il faut s'entendre que ça regarde bien, bien mal.
Exactement. Puis comme tu as dit, ce barrage-là servait, on va en parler au passé, mais servait en grande partie à refroidir la centrale de Zaporijjia. La centrale que ça fait un an qu'on surveille parce que, rappelez-vous, messieurs et tout le monde, c'est la centrale qui a mené, qui a reçu un tir de missile dans le parking, là. OK, c'est quand même assez quelque chose, là. Fait que en espérant que tout se passe bien, parce qu'on a un souvenir d'accident nucléaire, n'est-ce pas, en 86, avec un seul réacteur qui a failli mettre fin à l'Europe. Alors, si la centrale de Zaporijjia, combien de réacteurs, Zaporijjia? C'est au-dessus de 5, hein, me
semble? J'en ai aucune espèce d'idée.
Ouais, je pense que c'est entre 5 et 8 réacteurs. Si ça saute, là, regarde, il ne reste plus grand-chose. Pas juste de l'Europe, mais de nous en général. Alors voilà pour cette tranche d'actualité de la guerre en Ukraine. Et puis, parlons-en, commençons à en parler, messieurs, de ces feux-là qui ont commencé vraiment à être intenses la semaine dernière, Joe. On va parler... surtout de ton coin natal, hein, de Lebel-sur-Quivillon, que tu m'as rappelé de là, hein, de Lebel.
Oui, puis maman me l'a rappelé aussi vendredi vers 6h quand elle m'a envoyé la vidéo que j'ai partagée. J'ai fait le saut, puis là, c'est plate parce que je suis capable de la faire jouer, tu penses?
Un message?
C'est une vidéo, mais je me dis, les gens sont en audio, fait qu'on va laisser faire, mais en gros... Pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, ma mère, elle m'a envoyé une vidéo vers à peu près 6h vendredi soir où, dans le fond, elle est dans sa cour en train d'embarquer dans son char parce qu'elle vient de se faire dire qu'elle évacue. Puis le ciel, il est noir comme l'enfer tout le tour de sa maison parce que le feu, il s'est approché à quasiment 1 km de la ville tellement là, c'était intense. Puis ils ont évacué 2000 personnes d'un coup. Fait que dans la soirée, ils ont évacué tout le monde. Puis, aux dernières nouvelles, ce matin, ils ont évacué toutes les personnes qui restaient parce qu'il y a un deuxième feu qui arrive sens inverse. Et là, la ville est comme encerclée par les feux. Fait que c'est pas prêt de se régler, malheureusement, pour les gens de Lebel-sur-Quivillon en ce moment.
Est-ce que tu peux nous rappeler un peu, parce que Lebel-sur-Quivillon, ça a déjà fait partie de l'Abitibi. Hein? Maintenant, c'est dans le nord du Québec. Ça fait partie
dans la Jamésie, pour être plus précis.
Dans la Jamésie, exactement. Peux-tu nous décrire c'est où? C'est proche de quelle ville, mettons, en Abitibi? Parce que peut-être qu'il y a des gens cette semaine
qui ont entendu
Lebel-sur-Quivillon pour la première fois. C'est où exactement?
Lebel-sur-Quivillon, c'est à environ 2 heures au nord de Val-d'Or. C'est à environ 3 heures au sud de Chibougamau. Donc, si vous faites un calcul vite fait, c'est un peu à mi-chemin entre Val-d'Or et Chibougamau. C'est au nord du 49e parallèle. Et pour répondre à ta question, ça a été en Abitibi jusqu'au début des années 90, si je ne me trompe pas, où on a décidé de couper à 10 km sous Lebel-sur-Quivillon pour les inclure dans le territoire de la Jamésie. Fait que je suis né en Abitibi en 83 à Lebel-sur-Quivillon, mais par la suite, je suis devenu un Jamésien parce que ça a transféré d'une place à l'autre. Fait que je suis un Abitibien qui a apartheid, qui est revenu par la suite. Donc, c'est un peu une drôle d'histoire.
Alors voilà, un vrai homme du Nord.
Exactement.
Oui, voilà. Non, le bel sur Quivillon, c'est ça, moi, je suis allé deux fois dans ma vie.
Qu'est-ce que tu es allé faire là?
Une longue histoire que je vais te raconter hors d'onde. Okay. Non, ça ne se raconte pas sur le podcast, mais je me suis ramassé à m'amener. Voilà, vous voyez rougir. C'est pas le feu en arrière dans l'écran qui fait que je
rougis. Il y avait une demoiselle d'impliquée.
C'était le feu de l'amour.
On peut dire ça. Et puis, je me suis ramassé à Lebel-sur-Quivillon. Mes savates m'ont emmené jusqu'à Lebel. Et puis, c'est ça. Alors, voilà.
J'avais un bon chum de Lebel-sur-Quivillon qui jouait des covers d'Iron Maiden à Git.
Ah!
J'étais bien impressionné. Resté dans les bâches au cégep à Rouen.
Okay.
On a tous passé par là. Les batchs, c'était notre spot.
Eh, sérieux, oui. Ben, j'allais chiller là, des fois. Là.
Ouais. Ah non, c'est une toute belle place. Mais on oublie que Lebel-sur-Quivillon, il y a beaucoup de gens. Tu sais, c'est pas un village de 200 habitants. Là, petit,
non, dans son plus gros, c'est à peu près 4500 habitants. Là, avec la fermeture de l'usine qui était le cœur économique, la ville a perdu beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est environ, on a dit 2200 personnes qui vivent
à Lebel-sur-Quivillon. Ça ressemble à Ville-Marie, à Haute-Émiscamingue.
Exact.
Ouais, un peu plus petit que Ville-Marie même. Ouais. Je comparais ça à Évin, pour ceux qui connaissent un peu l'Abitibi. Sinon, imaginez n'importe quel village de 2000 habitants, puis ça ressemble pas mal à ça.
Oui, exactement. Comme tu as dit, au nord du 49e parallèle. Et puis aujourd'hui, la ville de Lebel-sur-Quivillon, dans le fond, vit grâce à l'usine c'est l'usine Kraft, mais là, on ne parle pas de macaroni au fromage.
Non, c'est Nordic Kraft qui fait de la pâte à papier, dans le fond, pour faire du carton commercial. Il y a aussi des mines. Il y a la mine Windfall qui, elle, était dans la zone où le feu a éclaté. Donc, eux ont été évacués les premiers. Elle est quand même perdue dans le fin fond du bout du monde. Ils ont envoyé plusieurs autobus en vitesse pour vider la mine. Puis de ce que je comprenais, il restait une ou deux personnes comme gardiens de sécurité à la mine tout seuls qui attendent que le feu arrive. Ouais, parce qu'il fallait avoir quelqu'un en permanence sur le site, de ce que j'ai compris. Là, je ne sais pas s'il a été évacué, mais ça a l'air qu'il restait au moins une personne qui guettait le spot pendant que tout le monde était évacué.
Aïe, aïe. Puis, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, on a évacué les gens de Lebel pour aller à Sainte-Terre, je crois.
Oui, exactement.
Vas-y.
En gros, ils ont envoyé un message à la radio. Ils ont mis les sirènes aussi, la sirène constante. Comme dans les films, on voit l'évacuation, tu as toujours la même sirène en boucle. Ça a été comme ça pendant plusieurs heures jusqu'à temps que tout le monde quitte la ville. Et ils étaient obligés d'aller s'enregistrer à l'aréna de Sainte-Terre. Il y avait vraiment des gens qui les attendaient là-bas parce qu'on voulait être sûr de ne pas perdre personne quand on n'en avait pas oublié un à quelque part. Parce qu'il y en a un qui est parti à son chalet, il y en a un qui était à la pêche. Donc, il fallait qu'ils s'enregistrent. Puis ensuite, il y avait le choix de rester là ou d'aller chez de la famille et des amis. Puis le chum de ma mère a un enfant qui reste là-bas. Ben, un enfant, il a 30 quelques ans, mais il y a quelqu'un qui reste à Sainte-Terre. Fait que la première nuit, il est allé dormir chez mon demi-frère par alliance, si on veut. Puis le lendemain, il est venu chez nous à Rouen, il est venu passer le week-end ici pour justement, parce qu'elle ne pouvait pas retourner chez eux. Fait qu'elle est arrivée avec ses deux chiens, puis le gros party. Là.
OK. Puis le moral, comment ça va?
Je dirais que quand elle m'a appelé pour me dire qu'elle était évacuée, là, ça se sentait dans sa voix, ça s'entendait. Là, elle était vraiment en mode, je vais dire, panique et avec raison. Là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais pas si ta maison va disparaître. Il y avait pas, tu sais, comme elle me disait, le matin, il y avait aucune idée. Tu sais, ma mère et son chum, ils ont une décapotable, ils ont fait de la décapotable dans la journée. Puis le soir, ils se font dire, il faut évacuer parce qu'il y a un feu. Là, personne ne s'est rendu compte de rien. Ça a vraiment, tu sais, d'un seul coup, ça l'a augmenté en intensité. Le vent a pogné là-dedans, puis ça a été comme une balle de foin que tu mets le feu là-dedans. Là, c'était tellement sec, ça a l'air que ça a été hyper rapide. Fait que ça a pris tout le monde par surprise aussi. Tu sais, personne s'est préparé à ça. Ça a été, je pense, ça qui a été le choc de se faire dire « Le feu s'en vient, il faut s'évacuer. » Quand, tu sais, là, deux heures, il n'y avait rien pantoute. Là.
Ça ressemble vraiment, tu sais, tu parles de la sirène, puis il y a aussi le fait qu'il y a des pompiers qui arrosaient l'usine Nordic-Kraft. Ça ressemble vraiment, tu sais, la série de Tchernobyl que tu connais très bien, ça ressemble vraiment à ça.
Il y a des gros liens à faire, puis c'est un peu à ça que je pensais, puis surtout que dans l'usine de Nordic Kraft, il y a du produit chimique au pied carré, parce que pour blanchir de la pâte de papier, là, c'est très, très, très toxique. Donc, si le feu pogne là-dedans, ça aurait été une catastrophe environnementale, sans compter tous les impacts économiques que ça aurait pu avoir. Et le feu s'est rendu à 500 mètres de l'usine.
Exact.
Fait qu'il y a des gens à l'usine qui voyaient le feu arriver. Et c'est là où les gens sont mis à paniquer parce que c'est surtout l'usine qui est en jeu. Parce que pour vous donner un petit cours de géographie 101, le Baie-sur-Quévillon est sur une péninsule. Donc, il y a le lac Quévillon qui prend à peu près 80 % du contour de la Baie-sur-Quévillon. Quévillon est dans la petite pointe sur ce lac-là. Et l'usine est de l'autre côté du lac. Donc, le feu est arrivé vers l'usine, mais la ville était quand même protégée par le lac qui est quand même assez gros. Là, c'est pas aussi gros que le lac Témiscamingue, mais c'est quand même un très gros lac. Donc, la ville... À ce moment-là, était 100% protégé parce que le lac empêchait n'importe quel feu de passer. C'était surtout l'usine qui était en danger.
Qui est du côté ouest, hein? Nord-ouest, le lac, je me souviens bien, à peu près dans...
Ouais, dans
les marches. Le feu s'en venait de l'est, mais le lac protège du côté ouest, à peu près.
Exactement. Puis là, en fait, oui et non, parce que dans le fond, comme je te dis, là, c'est surtout par le sud qu'on peut accéder à la Baie-sur-Quévillon. Fait que c'est sud-sud-est le feu. Fait qu'il était vraiment dans la même zone. Et quand il est arrivé à 500 mètres, ça a l'air que le vent aurait soufflé dans une autre direction, puis le feu aurait juste parti de l'autre bord. Ça aurait permis justement de sauver l'usine. Mais là, le problème, c'est que ce feu-là, lui... Je vais dire, il est correct entre parenthèses, il est encore hors de contrôle, mais il est plus dangereux. Mais il y en a d'autres qui sont allumés tout le tour de la Baie-sur-Quévillon parce que c'est hyper, hyper, hyper sec. Puis c'est de la forêt boréale peu réduite. Donc, c'est très, très inflammable, de l'épinette noire, ça a l'air. Donc,
Tu sais, imaginez vraiment, tu sais, comme tu dis, c'est de la forêt boréale, il n'y a pas grand feuillu là. Tu sais, il y en a, là, mais on s'entend, c'est de l'épinette noire. Puis, justement, d'où la création de Lebel-sur-Quivillon et de son usine de pâte et papier avec, justement, des résineux comme ça.
Exactement.
C'est comme tu as dit, Joe, c'est tellement sec en ce moment. Tu sais, on a pour les gens qui écoutent, qui viennent des
donc,
grands...
Donc, on est où, là?
Justement, l'Abitibi-Témiscamingue, là, on pense que l'Abitibi, c'est quasiment l'hiver à l'année. Hein, qu'en Abitibi, en été, il fait 15 degrés quand c'est une grosse canicule. Mais écoutez, en Abitibi-Témiscamingue, il fait chaud, là, OK? Puis on a vécu, avant que ces feux-là se déclarent, là, on a vécu une semaine tellement chaude et sec. C'était, tu sais, de la grosse chaleur, pas tellement humide en dessous au Témiscamingue, c'était de la grosse chaleur sec, hein? Sèche, dans le fond. Et puis... C'est ça, il y a quasiment pas eu de précipitation. Écoute, je suis allé faire mes recherches, OK, sur qu'est-ce qui est tombé en Abitibi-Témiscamingue. Là, je ne parle pas de mon coin, de notre coin, moi et Paumé, à Ville-Marie, mais en Abitibi-Témiscamingue, dans le mois de mai et de juin, en date du 6 juin, là, OK, pour ceux qui écoutent sur Tout ce qui TV, on enregistre le 6 juin, eh bien, il y a tombé 20 mm de pluie dans le dernier mois, OK, si on compte juste le mois de mai. Sais-tu, Joe, combien normalement il tombe de précipitations?
Je rajouterai un zéro au moins. Au moins 200 mm.
C'est pas mal dans le target. C'est entre 150 et 180 mm de précipitations qu'on reçoit. Et quand je parle de précipitations, c'est de la pluie. C'est pas de la neige. OK?
Ouais.
fait que c'est six fois moins. Six fois moins de précipitations sur un territoire à très grande majorité forestier, un territoire forestier.
Et au risque de me tromper, le Québec goûtera la pluie prochainement, mais pas nous.
Nous, en fait, à Lebel-sur-Quévillon, le pronostic, c'est pas avant le milieu de la semaine prochaine.
Eh, Seigneur!
Ça, c'est si ça change pas.
Ouais, on parle de pluie, pour le reste, mettons pour Rouen, pour le Témiscamingue qui en ce moment n'est pas touché. Tout ce qu'on va en parler pendant l'épisode, mais ce qu'on reçoit en ce moment, c'est bien de la boucane, comme on dit. Okay? On reçoit de la fumée. C'est très smoggy là, comme ciel. Le matin, pour toi, pour moi, je ne sais pas si tu l'as senti, mais ça sent le feu. Okay? Oui. Ça sent vraiment le bois qui brûle.
Le vent. Aujourd'hui, c'était la première journée où je trouve que le vent a vraiment comme fait voyager. Plus la fumée.
Tu vois, ici, c'est le contraire. À Rouyn-Noranda, c'est la journée où on était le moins affecté. Nous, ça a été samedi matin. Samedi matin, là, de chez nous, je ne voyais presque pas de l'autre bord de la rue, tellement c'était boucané.
Ce que je voulais dire, Joe, c'est que c'est aujourd'hui, je trouve que les bonnes bourrasses de vin ont fait en sorte que ça on a pu revoir un peu le ciel bleu. Là,
ah, OK, je pensais que tu disais que le vent avait ramené de la fumée jusqu'à Ville-Marie. Okay,
non, 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 mais probablement qu'il faisait descendre plus vers le sud. Là, tu parlais tantôt là, de ta carte interactive. Mais oui, en effet, mais sinon, si on recule, je parle entre autres, moi aussi, samedi matin, là, j'étais dans le secteur du Montreuil à chauffer à Winnebago pour le défi de I Am Gold. On faisait, nous autres, la partie de tronçon 101 Sud. Puis, c'était comme rouler avec une petite neige, là. Au pire, un peu comme dans Stranger Things, là, quand tu traverses de l'autre côté, là. Des espèces de flocons en suspension, là. C'était vraiment bizarre. Et puis, les coureurs se plaignaient, là, un petit peu, là,
Ça devait brûler les poumons.
Oui, la gorge sèche et compagnie, là. Quand ils ont fini ce tronçon-là, je dirais dans ce secteur-là, tu sais. On commençait à en jaser un peu, mais on ne s'attendait pas à ce qu'éventuellement on nous demande de cesser toute activité là, en lien avec ça.
Oui, parce que je t'ai invité dans le podcast cette semaine pour venir parler de ça, parce que tu as fait le défi de la 101 Sud et 117 avec une équipe de personnel scolaire. Hein,
je dis non, on était trois quand même, là, personnel, milieu scolaire. Le reste, c'est des policiers d'ici, là, Ville-Marie et Témiscamingue, là, des deux postes. Et puis, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. C'était une super aventure, comme c'est la deuxième année qu'on le fait. C'est vraiment cool. Et puis, c'est un bel événement. On est tous, on était tous fébriles malgré tout, même si on a passé.
C'est un sentiment d'accomplissement quand tu le fais. Moi, je ne l'ai jamais fait, honnêtement.
On s'est rendu jusqu'à la halte routière, là, près du Mont-Ganassita. Et puis. Le dernier tronçon qui était entre Montbéliard et ce secteur-là, tu sais, pas loin de Lac-Évin environ. C'est là qu'on a eu l'information comme quoi qu'il fallait arrêter les activités. Je dirais que nous, c'était quand même pas si mal à ce secteur-là comparativement au matin. Mais on voyait déjà qu'Amos-Rouyn, puis là, ça a été les grosses journées et soirées là, jusqu'à Amos. C'était complètement dans le gros smog.
Non, il y avait des photos. C'était orange. C'était vraiment, on aurait dit une photo prise sur Mars. Là,
absolument.
Pour Amos, là. C'est en fin de semaine, je pense.
Oui, c'était samedi aussi. À Rouyn, il y avait des précipitations de cendres. Ça, il y avait des gens qui ont filmé ça. Personnellement, là, en 37 ans de vie, là, j'ai déjà eu connaissance qu'il y a eu des feux. Là, je me rappelle, il y a quelques années, entre autres, à Témogami, on le voyait, là, le panache de loin, puis c'était smoggy partout, mais je me rappelle pas d'avoir vu pleuvoir de la cendre ou de la cendre en suspension. Fait que c'est vraiment majeur là, ce qui se passe présentement dans notre secteur. Là.
Ouais, peut-être si je peux réenchérir sur ce que tu dis, Paumé, c'est que dans le fond, présentement, 95% des feux sont à l'est de la route 113. Dans le fond, la route 113, c'est la route qui relie Val-d'Or à Chibougamau. Ouais. Et tout est du côté est. Donc, tous les feux sont de ce côté-là. Et il a venté ouest, dans le fond, toute la fin de semaine. Fait que Val-d'Or et Amos ont eu de la fumée sans bon sens. Pas parce que les feux sont nécessairement proches. Les feux étaient à genre 200 km. Mm-hmm. Mais ils ventaient tellement qu'eux ont reçu ce nuage de smog-là. Ça s'est rendu jusqu'à Rouyn. Moi, samedi matin, je me suis levé dans ce nuage-là. Puis c'était la fête de ma fille. On avait organisé une fête à l'extérieur dans un parc. Puis là, on avait ce gros nuage de smog-là, puis on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On le fait-tu pareil? On le fait-tu pas? Heureusement, pendant l'après-midi, ça s'est dissipé, puis c'était correct, mais tu sais, j'aurais pu être obligé d'annuler la fête de ma fille, puis dire, ouais, il y a un feu de forêt à 200 km qui veut pas que tu aies ta fête aujourd'hui, puis d'avoir à dealer avec la tristesse d'une petite fille de 8 ans. C'est pas arrivé, mais tu sais, ça amène d'autres conséquences indirectes, on va dire, aussi,
puis
cette situation.
C'est comme un espèce de gros barrage de feu, parce que tu dis que c'était à l'est, mettons, de la 113, puis si on en regarde, exemple, vers la Haute-Mauricie aussi, dans certains secteurs, là,
ben, en fait, pour moi, tu sais, le lac Saint-Jean, l'Abitibi, puis la Haute-Mauricie ont une forêt commune dans le milieu. C'est là que le feu est pogné entre les trois régions, puis je vais vous le montrer avec la carte, puis en même temps, je voulais vous montrer, parce que c'est quand même impressionnant. C'est le site Fire Smoke, qui est dans le fond un site qui permet de voir en temps réel les feux de forêt en Amérique du Nord, pas juste au Canada, aux États-Unis aussi. C'est basé sur les travaux de la NASA, donc la NASA qui scanne ça en temps réel pas mal tout le temps. Et là, je ne sais pas si vous le voyez apparaître à l'écran.
Oui, absolument.
Et là là!
Ça, dans le fond, c'est la carte de l'Amérique du Nord. Pour ceux qui ne voient pas, là, qui sont en podcast, les feux du Canada, en fait, les feux du Québec et principalement du nord du BC, boucanent pratiquement la moitié de l'Amérique du Nord. Ceux du BC poussent surtout vers le Yukon, vers l'Alaska, tandis que ceux du Québec poussent vers les États-Unis, principalement vers Boston et New York. New York, aujourd'hui, wow, était sous le smog. On ne voyait plus la Statue de la Liberté de Staten Island, tellement c'était boucaneux à New York. Et si on zoome un petit peu, vous voyez les chiffres, dans le fond, c'est le nombre de feux. Fait que le spot où il y en a 66, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, si je fais un petit zoom-in... Là, ça va peut-être avoir coché un peu. Et là, vous voyez, dans le fond, les feux et la boucane. Donc, plus c'est foncé, plus la fumée est forte. Et on voit que, dans le fond, présentement, le vent est de sud. Donc, tout pousse vers le sud du Québec, vers les États-Unis. Et si je résume une autre fois, je vais aller vous montrer le bel sur Kévillon pour vous montrer vraiment...
On voit vraiment les
points pour ceux qui sont présentement. Il faut juste que je leur
dise les points dans le feu. Avant que tu continues, Joe, juste pour dire, ceux qui sont en podcast, là, ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir l'épisode vidéo sur YouTube. Juste à dire ça.
C'est majeur en ce moment, le bel sur Kévillon. Aïe, aïe. Genre, la carte,
il y a plusieurs feux. Il y a vraiment plusieurs feux.
Particules, mètres,
cubes. Je ne sais pas si on est capable de bien le voir, mais vous voyez, dans le fond, la presqu'île où c'est marqué le bel sur Kévillon, il y a vraiment le lac tout le tour, mais c'est que ça s'en vient aussi vers le sud et ça menace aussi l'aéroport qui est quand même très, très proche aussi
des feux de forêt.
Donc, j'ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment là-bas, mais clairement, ça ne regarde vraiment pas bien.
Avant de zoomer out, là, la partie orange, pour ceux qui sont en vidéo, juste dire c'est la partie qui est brûlée. Là. Ça, c'est pas un feu. Okay, c'est fini. Là. C'est fini. C'est brûlé. Là.
Et ça continue à grossir. Et vous voyez qu'il y en a aussi trois autres au nord. Il y en a plusieurs autres à l'est. Donc, c'est vraiment le nerf principal.
Parce que là, je vois la route. Est-ce que la route de Matagami, est-ce que Matagami est enclavée? Est-ce qu'il y a encore moyen de se rendre?
Le bel sur Kévillon, non, mais on peut le Paramos encore. Mais le chemin entre le bel sur Kévillon et Matagami est fermé parce qu'il y a trois feux autour de cette route-là. En fait, la 113 est fermée tout court. On ne peut plus passer par là. Le chemin, il est juste bloqué. Donc, de Sainte-Terre à Chappé, il n'y a plus aucun véhicule qui peut passer en ce moment.
Ça n'a pas de bon sens.
Et même de l'autre côté, là, dans le nord de la Sarre, je dirais, les accès sont assez limités. Nord-Métal et compagnie, mais aussi la fameuse porte là, de la route de la baie James.
Oui.
Pour la mine de la Casa Béardi, c'est aussi très limité.
Là, j'ai vu qu'il y a Nord-Métal qui a été évacué, il y a Saint-Lambert. On s'attend même à ce que la Reine soit évacuée. Donc, c'est tous des villages de 200, 300, 400 habitants, mais c'est en fait la maison quand même quand tu penses à ça. Donc, le problème est là, c'est qu'il y a tellement de feu. Ouais, vas-y.
Non, écoute, j'ai une anecdote pour quelqu'un de la Reine. Le père d'un de mes chums reste là, puis il est allé à la pêche jusqu'à la journée qu'il n'était plus capable de voir pour s'orienter sur le lac Abitibi.
Parlons de ça.
Il s'est dit, ben là, je pense que je vais arrêter. Là.
Exactement. Parlons des
lacs.
Samedi dernier, là, fait que là, on parle samedi dernier, on parle du 3, OK, du 3 juin. J'étais à ma roulotte, mon cher Joe, comme à chaque fin de semaine, n'est-ce pas? Moi, j'étais de Rouen. Et puis, je me lève le matin, samedi matin, parce que là, vendredi, on entend parler qu'il y a des feux proches de Lebel sur Kivillon. Ça commençait, hein, pas mal dans ce temps-là. Samedi matin, je me lève, puis devant moi, dans le fond, devant ma somptueuse roulotte, eh bien, je vois le lac, dans le fond, que je ne vois pas, au fond, parce que c'était comme une brume. Mais, tu sais, une brume, normalement, tu vois ça sur le lac un matin d'été, quand il a fait vraiment chaud la veille et, tu sais, que les températures ont baissé la nuit. Mais c'était une bruine bleue. C'était de la boucane. Je suis là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis, je regarde mon auto et puis, il y avait comme une espèce de couche par-dessus. Mais je me suis dit, voyons donc, c'est-tu du pollen? Je suis allé passer mon doigt. C'était brunâtre. Là. Je me suis dit, voyons, c'est de la cendre. Fait que moi, c'est vraiment là que je me suis rendu compte, OK, c'est vraiment le vent charrie vraiment loin.
Ça voit à quoi ça m'a fait penser, moi, en fin de semaine? Avez-vous vu le film Le Sommet de Dante avec Pierce Brosnan?
Oui.
En 90, quand le volcan explose, puis il y a de la cendre qui tombe. C'est pareil. Sauf qu'au lieu d'être un volcan, ben, c'est un gigantesque feu de forêt. Et là, j'ai comme paniqué un peu quand j'ai vu la carte tantôt des feux de Lebel-sur-Quévillon. On avait vu que c'était vraiment le bordel. C'est comme tu dis, c'est la zone qui est brûlée. C'est pas la zone qui est en activité nécessairement. C'est ce qui est passé au feu. Parce que selon la ville qui a mis un update de l'environ 2 heures, la situation est stable et qu'il fait quand même plus frais présentement. Ils pensent être capables de pas de gérer, mais ils sont capables probablement là, de protéger la ville en attendant que la pluie fasse son effet, si pluie il y a. Mais au moins, ça a l'air moins menaçant que ce qu'on croit voir sur smokefire.ca.
Mais c'est con à dire, mais ça peut changer les choses, qu'il fasse plus frais, tu sais, qu'il y ait une espèce de rosée le matin, que les arbres... qu'il y ait une rosée pour que ça empêche un peu le feu de se propager, parce que sinon, ça serait... C'est sûr que le feu serait rendu à Lebel. Comme tu as dit tantôt, c'est une histoire de quelques centaines de mètres, 500 mètres, puis c'était rendu dans la ville. Là. C'est quand même incroyable.
C'est le lac qui a sauvé la ville, parce que sans le lac, le feu aurait passé super facilement. C'est l'humidité du lac, probablement, avec le vent du lac qui a poussé le feu vers une autre direction, puis qui a sauvé 2000 personnes. Exactement.
Parce qu'on parlait même en début de semaine, on parlait de la possible évacuation. Admettons là, que ça aurait continué. On parlait de la possible évacuation de Val-d'Or. Pour ceux qui ne connaissent pas Val-d'Or, qui ne sont jamais venus en Abitibi, ben Val-d'Or, c'est 50 000 habitants.
Okay, Les envoyer où?
Puis en parlant justement de Lebel, etc., le dimanche matin.
Au Centre-Belle.
c'est quasiment ça. Mais
au stade olympique.
Ben, ça aurait été une affaire de même, parce que tu peux pas rentrer 50 000 personnes dans des arénas à Rouen.
Non, mais non. Ça peux pas mettre 50 000 personnes dans Rouen en ce moment.
Tu peux pas, à la limite, amener tout ce monde-là vers le Témiscamingue où est-ce que...
Non plus.
On n'a pas d'installation pour ça, là, pour des catastrophes comme ça.
Juste
terminer. Dimanche matin... J'étais encore à ma somptueuse roulotte, bien sûr, à Montbéliard, face au lac Opasatika qui était embrumé de fumée. Et puis, il y avait des gens de Lebel-sur-Quivillon qui sont venus au camping pour demander est-ce qu'on peut prendre une douche, dans le fond, dans le bloc sanitaire. Tu sais, puis au pire, on va payer. Non, non. Dans le fond, les propriétaires du camping, c'est ma soeur et mon beau-frère, que je salue en passant. Mais écoutez, il y a du monde qui sont venus prendre leur douche, puis non, on n'accepte rien, let's go, allez-y, puis allez vous laver. Fait que tu sais, Rouen, ben, je veux dire, Montbéliard, là, c'est loin de Quévillon. Fait que, là,
c'est quasiment 4 heures. Ben, 3 heures et demie. Hein.
Ouais, un bon 3 heures et demie. Juste pour dire qu'en ce moment, au Québec, on parle de plus de quasiment 170 feux en activité. Là, tu sais, en Abitibi, c'est 78 qui sont soit... Ben, en activité, dans le fond, soit hors de contrôle ou bien contrôlé. Je n'ai pas le nombre exact qui sont hors de contrôle, là. Mais on parle surtout de Quévillon. On parle du coin de quoi? Saint-Lambert, de la Reine, ouais, dans ces coins-là.
On appelle ça Abitibi-Ouest, tout le nord de la Sarre. C'est ça. Métal-la-Reine, Saint-Lambert. J'ai vu une autre ville dont j'ai oublié le nom, mais il y a plusieurs.
Même la végétation qu'on a mis tantôt, là.
Mm-hmm. Oui, avec plus de feuillus un peu, moins boréal, mais quand même...
Quand même très axé sur le conifère, ce secteur-là. Là,
exactement. C'est très, très isolé aussi, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Là. Fait que ça pogne, il n'y a pas vraiment de porte de sortie. Ça sort juste d'un bord parce que tu ne peux pas aller par en haut. Le chemin a été barré à la casa, puis ça ne va pas plus loin. Donc,
c'est ça. Puis une chance que... Ben, t'sais, une chance en même temps, j'ai vu sur ta carte que le feu en Abitibi-Ouest est au nord du lac Abitibi, c'est ça?
C'est ce que j'ai cru comprendre, moi aussi.
Fait que la SAR, on ne parle pas encore de la SAR d'une évacuation parce que, logiquement, tantôt on parlait de protection par l'eau, la SAR n'est pas au nord du lac Abitibi, si je me souviens bien. Là. Fait que,
la SAR est comme à l'est du lac Abitibi, je dirais, vers le nord-est, mettons, du lac, là, parce qu'il descend quand même un peu. Là. Ouais. Ben, il est fait rond, d'un sens. Oui,
c'est ça, c'est un...
Mais en effet, là, c'est plus l'impact là, Nord-Métal, etc. Puis Nord-Métal, c'est quand même un bout là, avant du puits qui n'est pas trop loin de là
on
aussi.
On parle de quoi? Une demi-heure au nord de la Sarre?
Oui, à peu près. Là, 25 minutes, mettons, au nord de la Sarre, tu n'es pas loin de Nord-Métal.
Ouais, exact. On a un commentaire de Francis Nau qui dit « Il n'y a pas grand-chose de contrôlé en Mauricie. » Parce que c'est vrai, on n'a pas parlé de la Mauricie. Je vais vous en parler tantôt.
En effet.
Avec la situation de la petite bourgade.
Clova. Oui.
Pas grand-chose de contrôlé en Mauricie, à part des bénévoles et des groupes de Premières Nations. Mm-hmm. Ça brûle allègrement. Ben, parlons-en de Clova. Pour ceux qui ne connaissent pas Clova, c'est même pas une municipalité, c'est un petit village, dans le fond, de...
C'est un ancien camp forestier, dans le fond, qui est devenu... Exactement, c'est dans le fond, c'est comme un quartier de Latuc, si tu veux, mais qui est quand même assez loin, parce que le conseiller municipal de Clova siège à l'hôtel de ville de Latuc.
OK. C'est un peu comme un territoire non organisé, comme l'Agnel.
Ouais, exactement, c'est un peu dans ce style-là. Okay. Dans le fond, c'est quoi? Je pense que c'est 30 maisons, si je ne me trompe pas, à peu près.
On parle de même pas 40 habitants. Fait que, c'est même pas 40 maisons. Mais tout ça pour dire... Vas-y, excuse-moi.
Est-ce que le premier ministre n'a-tu pas été maladroit en disant que c'est pas grave, ça va brûler? Moi, j'ai tellement
trouvé exactement là où je m'en allais.
Dégueulasse. Ah, ben, regarde, je te laisse continuer. Moi, je trouve
ça. Dans le fond, François Legault, hier, en date du 5 juin, est allé dire... Quasiment verbatim, ce que je veux dire là, eh bien, on sacrifie Clova.
Ouais. On n'a pas rien à Clova, faire. Ça ne sert à rien d'aller gaspiller de l'argent et de l'énergie.
Parce que Clova, ce n'est pas le feu, pas le village, mais tu sais, on s'entend, tu sais, on a fait des épisodes pendant les élections, puis tu sais, moi, je l'appelle François Lagaffe, là. Des fois, là, il s'enfarge. Tu sais, il n'y a même pas besoin de quelqu'un pour se faire enfarger. François Legault, c'est celui qui met ses souliers le matin et qui n'attache pas ses cordons. C'est lacet, excusez-moi. Mm-hmm. Et puis qui s'enfarge lui-même dans ses propres paroles. Fait qu'il est allé dire tout simplement ben Clova va être sacrifié. Et puis même il a dit Clova a été rasé. Aux nouvelles, on disait ça. Puis là, je ne parle pas de TVA, je parle de Radio-Can qui a dit Clova a été rasé. Puis après ça, je pense une demi-heure plus tard, il recevait un résident de Clova qui dit non. Le village n'est pas rasé. Regardez, je vous parle. Puis c'était tellement, pee-wee, là, comme couverture de cet événement-là pour Clova. Là. Ça va dire le village est rasé. Puis après ça, il y a quelqu'un de Clova qui appelle. Non, regarde.
On est encore là.
Le feu est là, mais le village n'est pas brûlé. Là.
On dirait un exemple tellement, tu sais, de celui qui est dans sa tour d'ivoire, là, puis qui gère à distance.
Qui
là.
Est complètement déconnecté de la réalité.
Déconnecté de ce qui se passe sur le terrain. Fait que là, ils ont essayé de faire comme du pouce là-dessus, puis de s'y intéresser. Puis
son équipe.
Il a débarqué.
Le briefing qu'a eu François Legault avant de faire sa conférence de presse, là, il s'est fait dire, écoutez, monsieur le premier ministre, Clova est condamné, Clova est rasé. Il est allé le dire. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il aurait dit ça par lui-même, genre, il sort ça de son chapeau, Clova est rasé, ou bien on la condamne. Il s'est fait dire, écoutez, Clova, monsieur le premier ministre, c'est fini. Fait que, tu sais,
il y a un conseiller à quelque part.
C'est l'équipe de com. En quelque part, qui n'a pas fait sa job. Là.
Qui n'avait pas bonne information, en tout cas.
Exactement. Parlons de la superficie. Vous avez vu avec la carte de Joe tantôt, la superficie de qu'est-ce qui est brûlé. C'est vraiment pas drôle. Okay? On parle de quoi? 160 000 hectares brûlés. Ce qui
on était rendu à plus qu'à 200 000 hectares de brûlés tantôt.
Ben, écoute, rendu à 200 000, ben, je vais changer mon chiffre. Ça veut dire que c'est à peu près 5 fois et demi l'île de Montréal qui a été brûlée. Au Québec, là, on ne parle pas juste de Lebel, là, mais au Québec.
Puis la moyenne de 10 ans, là, c'est 3000 hectares en moyenne à ce temps-ci de l'année qui est brûlé.
Oui.
Ouais, plus que 200 000.
Parce que normalement, là, 160 000 hectares, là, c'est dans un gros été. Là, je ne parle pas d'un gros mois de mai. Là. Un gros été de feux de forêt, c'est peut-être même moins que 160 000 hectares. Et puis là, je le répète, je suis fatiguant parce qu'un podcast, c'est intemporel. On est le 6 juin.
Moi, je vais être encore plus intense que ça. Hier, ça a été la journée où il y a eu le plus de feux de forêt dans l'histoire du Québec.
Ah oui, c'est des feux historiques. Là.
Quand même.
C'est vraiment historique.
On n'a jamais vu ça au Québec. Jamais. Pas le 5 juin. Là.
Non, absolument. Puis tu sais, là, en ce moment, là, c'est Québec qui a goûté. Puis on sait, la Californie, c'était souvent leur tour. Puis probablement que ça brûle encore. Ouais. Je me souviens.
Canada,
l'Australie, là, j'ai une amie, moi, qui était combattre le feu là-bas pour la SOPFEU, justement. Écoute, tu sais, c'est comme notre tour, mais je commence à trouver que ça brûle. Quand ça brûle à quelque part, ça ne brûle pas rien qu'un petit peu parce que la sécheresse fait en sorte que ça rend tellement difficile la maîtrise de ces feux-là. C'est comme pas possible. Puis là, au travers de ça, quand il y a des précipitations, exemple, la semaine dernière, ben, c'est des orages. Donc, la foudre, elle peut redémarrer un feu à peu près n'importe où parce que une pluie d'orage, c'est soudain et pas très long. Donc, mettons que c'est probablement pas assez pour éteindre une tison par moment. Donc, je ne suis pas un expert en feu de forêt, mais ce que je peux dire selon ma logique, c'est que ça prend là, 2-3 bons jours de pluie pour se l'accueillir. Puis, c'est pas à venir encore.
Non, vraiment pas.
Donc,
Parce que les précipitations, là, on parle de l'Abitibi-Témiscamingue. Désolé, on n'a pas parlé beaucoup de la Côte-Nord.
Oui, aussi.
Mais je crois que, de ce que j'ai vu aujourd'hui...
Les gens ont pu retourner chez eux parce qu'il y a de la pluie. Ou ça amène de la pluie.
Ça. C'est ça, il pleut en ce moment sur la Côte-Nord. Alors ça,
ce qu'on n'aura pas.
Le pire a été sauvé.
Oui, parce que là, ça allait vers cette île.
Oui.
Ça allait vers cette île. Mais tout ça pour...
Ah non, attends un peu. État d'urgence, Chibougamau vient d'être évacué.
Ah?
À Chibougamau?
Selon François Cormier, qui est chef d'antenne d'une...
C'est combien de personnes, Chibougamau, Joe?
C'est 6000 personnes à peu près. C'est le directeur de l'information de Cogeco Média.
Wow.
Là, on parle de Chibougamau. Ces gens-là vont sûrement aller vers le
lac Saint-Jean.
Vers Saint-Félicien, oui, de ce que je comprends.
Saint-Félicien au lac Saint-Jean.
La Dorée, puis le lac Saint-Jean.
Ah, est-ce que les communautés autochtones aussi autour?
Il y a juste marqué Chibougamau évacué, état d'urgence, évacuation obligatoire, la 167, ouais, c'est le chemin vers le lac Saint-Jean.
Il n'y a pas marqué les feux en action autour de Chibougamau tantôt. Oui,
veux-tu remettre?
Oui, remettons ta carte.
Oui, je retourne chercher la carte. Laisse-moi 2 secondes. Combler le vide, les gars. Là, je vais aller chercher ça.
Excellent. Mais dans le fond, Chibougamau, tu sais, c'est à peu près à... Je dirais là, à 7h30 là, d'ici là, Ville-Marie, on allait jouer au hockey là, dans le temps, je me souviens. Puis, tu sais, dans le secteur, il y a déjà eu un gros feu et tout à Chappé. Ben, il y avait eu le feu à Chappé.
C'est dans quoi de Chappé? On n'a pas parlé de Chappé, mais Chibougamau, Chappé,
Le gros feu qu'il y avait eu à Chappé dans une salle communautaire.
Qu'il y a quelqu'un qui avait. Les portes étaient barrées. Je viens de voir pourquoi Chibougamau, je vous montre l'image. Là, c'est surtout la fumée. Mais il y a un solide feu qui s'en vient aussi. Ah non, c'est pas le fun, ça.
On s'entend, c'est comme le cœur pas mal, je dirais, économique de ce secteur-là. Là. On s'entend, le Chibougamau.
Donc, vous allez voir apparaître, Chibougamau est en plein cœur de votre carte. Et vous voyez le feu au nord qui boucane directement dessus. Il y en a un plus petit aussi à droite, mais c'est clairement le feu qui est à côté du lac Mistassini, dans le fond. C'est ce qui est présentement le plus... dangereux. Donc, vous voyez que le feu de Chappé est quand même...
Ah, oh, mais ces feux-là, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, il n'y a pas d'orage en ce moment. C'est sûr, c'est humain comme...
Il y a des entreprises forestières qui fonctionnent encore.
Ben, ça se peut, une étincelle. Parce que, tu sais, là, on fait cet épisode-là, mais on ne se prétend pas expert en feu de forêt. Là, on commence l'actualité, on s'entend. Là, mais ça, pour dire qu'à un moment donné, c'est comme random un peu partout dans le Nord. Mais comme tu as dit, Joe, les compagnies forestières, peut-être qu'il y en a encore qui sont sur le terrain, mais en même temps, on n'a pas parlé de ça, mais les compagnies minières, on parle des mines en Abitibi, surtout à Val-d'Or, je crois, même dans le coin, l'Abitibi minière, où est-ce que les mines sont fermées parce que l'air est tellement, sale, okay? C'est avec la boucane, ben, on a besoin, tu sais, pour la ventilation des conduits, des mines, ben, c'est l'air de dehors qu'on prend pour envoyer ça. Fait qu'à un moment donné, tu vois juste les...
Et puis
les asphyxies.
Un feu de forêt, là, ça a au moins 5-6 composantes néfastes. Tu sais, c'est pas juste comme du CO2.
Ouais.
Il y a du CO2 dans dans un feu de forêt, mais il y a d'autres trucs. Là, j'étais allé lire sur Environnement Canada justement un peu aujourd'hui à ce sujet-là. Mais je regarde là, présentement au nord de Chibougamau, c'est inquiétant. Oui, au niveau du feu qui s'en vient, mais probablement comme genre au niveau de la qualité d'air, ça doit être épouvantable.
Oui, vraiment. Joe, enlève pas ta carte tout de suite, mais je voyais qu'il y avait aussi de la fumée qui venait du nord de Chibougamau. Veux-tu la remettre juste pour voir? Ça vient de
j'ai accroché quelque chose, excusez-moi.
Pas de trouble.
Mon cher.
mais juste pour voir, j'ai pas remarqué les feux au nord de Chibougamau. Là, on parle vraiment de ouais, à la hauteur de la baie James, là, on s'entend, là, parce que je ne sais pas si les installations d'Hydro-Québec sont en sécurité, là, avoir ces feux-là proches de la baie James. Là.
C'est une très bonne question. Ça serait de voir.
C'est de voir où, parce que si c'est proche de la grande des barrages.
Non, on est encore très loin de ça, les gars. Géographiquement parlant, on n'est vraiment pas dans le même coin.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est juste pour voir.
On est plus vers l'est, on est plus vers le nord du lac Saint-Jean. Tu sais, le lac Mistassini plutôt. Il y a quand même deux feux dans le nord, par exemple, mais ils sont loin aussi des lignes, là, sont vraiment en plein cœur du territoire Cree, donc je ne sais pas si c'est habité dans ce coin-là. Je vais remettre la carte, vous allez le voir, ce ne sera pas long. Je me bats avec Google.
On t'en demande pas mal à ce soir, mais non, c'est très intéressant. Puis il y a peut-être...
Juste
rappeler, Joe, c'est quoi cette carte-là? C'est quoi l'adresse? Comment on peut aller voir cette carte-là, s'il te plaît?
C'est firesmoke.ca.
Firesmoke.ca. Alors, pour voir
en temps réel... Vous voyez présentement, dans le fond... C'est surtout, en fait, c'est la ligne, la forêt boréale qui brûle, parce que la toundra plus au nord brûle un petit peu, mais c'est vraiment ce qu'on appelle la bonne vieille forêt boréale qui est en feu en ce moment. Puis ça, c'est aussi des gaz à effet de serre qui sont libérés parce que c'est du carbone en maudit qui est en train de se faire brûler puis qui est en train de se faire pousser dans l'atmosphère.
Puis là, je remarque que cette nuit, entre autres, l'Abitibi-Témiscamingue va recevoir son lot de fumée, là. Ouais, selon l'heure, là, mettons, on devrait se lever demain matin puis avec une petite brune de boucan.
Ouais. Mais juste, Joe, regarde sur ta carte à la hauteur de la baie James. Je ne sais pas si tu peux zoomer là, ou est-ce qu'il y a un petit 2, là. Mais c'est pas mal à la hauteur des barrages d'Hydro-Québec. Je dis ça de même, là, mais ça a l'air...
En fait, les barrages sont plus au nord un peu, parce que le barrage Daniel Johnson, il est au nord, puis ça boucane vers le sud, puis le feu, il descend. Parce que tu vois, Robert Bourassa Réservoir, c'est sur ce truc-là qu'il y a les barrages. Ouais. Les feux sont beaucoup plus au nord, puis check l'eau. Ils seront pas capables de se rendre chez...
Non, c'est un endroit où...
Ils vont rester dans leur coin, je pense, ces feux-là.
Et puis, une courte végétation, là, c'est pas des forêts là, très. Tu sais, ils sont dans le lichen,
c'est de la toundra.
Ouais, c'est ça, ça commence, c'est vraiment de la toundra. Mais tu sais, pour dire que. On parlait tantôt de cette île, mais oui, de la côte nord, que ça se calme. OK? Il y a de la pluie. Il y a tombé de la pluie aujourd'hui. Là, on parle, bien sûr,
encore. On parle un peu de positif.
Oui, exact.
Alors, pendant 45 secondes, je parle de positif. Dans le coin de la côte nord, cette île. Ils reçoivent l'appui. Alors, je le répète, en date du 6 juin, il mouille à cette île. Fait que peut-être
La vie d'évacuation, il y avait quand même 10 000 personnes évacuées à cette île. Puis la vie d'évacuation a été levée, je pense, c'est ce matin ou ce midi.
Oui, exactement. Alors, peut-être que les avions Canadair, les avions citernes qui opéraient dans le coin de la Côte-Nord vont pouvoir revenir faire un petit tour en Abitibi. On aurait besoin de se faire arroser quelque peu. Parlant justement de ces avions-là, Canadair, ces avions citernes, c'est très impressionnant. Est-ce que vous avez vu comment qu'ils se remplissent, ces avions-là?
Oui, c'est vraiment...
Ça prend des pilotes, on s'entend, des pilotes avec du gosse, on va dire ça comme ça.
Habile avec
le... Ils atterrissent, ils ramassent, ils repartent. C'est
juste pour éclairer l'eau, pour remplir les réservoirs, et puis ils repartent. Ils montent et puis ils s'en vont arroser. Savez-vous, les gars, combien qu'on a de ces fameux avions Canadair? Je l'ai appris aujourd'hui.
Je sais qu'on a genre 300 pompiers, si je ne me trompe pas, mais je ne sais pas combien qu'on a d'avions.
Est-ce qu'on
va dire 10 gros max?
10? OK, ben, t'es pas mal bon, toi?
15?
Ben, t'es pas mal dans le target. On parle de 14. Ce qui m'amène à une
14
question.
14 pour 200 feux.
Non, mais 14? Moi, dans ma tête, excusez, mais c'est pas gros 14 avions pour les feux de forêt.
Absolument pas.
Je trouve ça pas gros. J'ai été surpris. Moi, je pensais, je sais pas, moi, on en a...
On n'était pas préparé à ça.
Une trentaine, quelque chose de même. Mais là, on parle du gouvernement de financer pour se procurer de nouveaux avions qui, avant, étaient produits au Québec, mais qu'on a vendu à une compagnie du BC.
Ah, faut un changement. Mais, mais côté aussi, les formations en accéléré pour les pompiers sauve-feu, hein, des formations de 7 jours qui se donnent, je crois, à Rouyn-Noranda.
N'importe qui veut devenir pompier forestier présentement, il n'y a pas de job plus, je veux dire, on target. Puis c'est ça, je pense, c'est une semaine de formation, puis on t'envoie avec ta hausse quasiment tout de suite.
Et j'ai entendu que certains travailleurs, entre autres, travailleurs miniers ou d'autres personnes, présentement, parce qu'ils ont décidé d'aller faire ça en attendant.
Parce que les mines sont fermées pour la plupart.
Parce que c'est fermé. Ben, puis merci. Merci, ouais, certains. Merci. Merci énormément. Ouais. Et puis, faut être terriblement en forme pour aller combattre un feu au milieu du bois avec tout l'équipement et la chaleur. Donc, je leur lève mon chapeau et puis merci d'être là.
Oui, vraiment.
Si je peux rajouter à ce que vous dites, à ce que tu as dit, Paumé, c'est que dans le fond, éteindre un feu, c'est pas juste éteindre un feu, c'est aussi prévenir. Puis présentement, ce que les gens font principalement, c'est de creuser des digues, de creuser des trous, de couper des arbres, de faire des tranchées exactement pour que quand le feu arrive, qu'il n'y ait plus rien à brûler et qu'il finisse par s'éteindre de lui-même. Ouais. Fait que les gens n'éteignent pas nécessairement des feux en ce moment. Ils essayent d'arrêter la progression, mais on n'éteint pas, on n'éteint presque pas en fait. Donc, ces gens-là, probablement, vont aller justement creuser des tranchées, vont faire de la pépine, comme on dit, vont aller justement bûcher, vont aller ramasser pour créer un espace assez large pour que le feu ait plus de gaz, dans le fond, on pourrait dire, ait plus de carburant pour pouvoir continuer. Donc, c'est surtout ça. Puis c'est ce qui a sauvé la Belle-sur-Quévillon. Ils ont fait une grosse tranchée tout le tour de la ville, puis ça a réussi justement à couper la progression.
C'est vraiment impressionnant de voir
vraiment.
Ça.
Vraiment. Puis je lève mon chapeau à tous les travailleurs de la Stop-Feu. Vraiment, vous êtes nos héros présentement. Puis vous devez avoir des solides journées. J'espère que le gouvernement va vous récompenser pour votre excellent travail. Parce que,
oui, parce que c'est héroïque.
Vous autres, c'est héroïque, exactement. Là, on va dire, ils travaillent peut-être quoi, 3 mois par année au Québec, mais tu sais, ils vont aller faire des feux au BC, puis en Alberta, puis ailleurs.
C'est fou,
l'international de tout ça. Il y a des gens de partout dans le monde qui vont être là, du monde de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud. Puis nous, on va aller faire la même chose. Donc, c'est beau à voir au moins.
Des renforts, justement.
Il y a 150 Français qui s'en viennent. Emmanuel Macron nous a tweeté ça hier. Il y a des gens de l'Afrique du Sud qui étaient déjà en Alberta, qui vont rester, puis qui vont s'en venir. De Nouvelle-Zélande, de l'Australie, des États-Unis aussi. Donc, il y a des gens d'un peu partout qui sont venus
prêter. L'armée aussi, il y a 300 qui ont fait une petite formation, mais vraiment pour aider, là. C'est pas eux autres qui vont aller piloter l'avion canadien.
Non, mais quand même, ça prend des bras. Puis on a évacué du monde. Il faut qu'on soit capable de faire la logistique de tout ça aussi.
Exactement. On a un commentaire de Martin Pontbriand, Nicole, que je salue. Je pense que c'est une des premières fois que tu commentes, mon cher.
Bonsoir.
Je suis à Saint-Hubert, en Montérégie, et c'était désagréable aujourd'hui. J'ose pas imaginer la situation plus au nord. Mais comme on dit, mon cher Martin, c'était... depuis plusieurs jours, mais le Témiscamingue, aujourd'hui, c'était plus le matin. Pendant la journée, moi, je sortais dehors.
C'est tout le temps le matin, tu remarqueras. Le matin, c'est l'enfer parce que la nuit fait plus frais, le plafond descend. Puis avec la journée, on dirait là, que ça finit par se dissiper. Puis là, hier soir ici, là, c'était jaune encore. Mais là, tu vois, ce soir, ça a l'air popé, mais ils ventent vraiment beaucoup sur Rouen. Fait que peut-être que ça aide aussi à dissiper cette fumée-là.
Selon ta carte de tantôt, là, c'est aux petites heures de la nuit aussi que les gros panaches s'en viennent. Puis en effet, ça doit avoir une espèce d'effet aussi sur les feux. Cette espèce de tombée de la nuit-là, le changement de température.
Le froid, c'est ça.
Qui fait qu'un peu comme l'hiver, là, quand les gens quand les gens chauffent au bois, et qui fait très, très froid. Là, on voit que la boucane atteint un certain plafond et par après se dissipe. Donc, ça donne un phénomène qui est similaire, là, qui se produit.
Un smog, là, dans le fond.
Une espèce de smog qui vient envahir. Et, t'sais, ça, sans compter que tout le reste est très volatile dans cette sécheresse-là. Un bon coup de vent dans une cour de sable, là, ça part. Donc, des particules dans l'air, disons que pour les gens à risque, là, asthmatiques, etc., là, c'est pas un très bon moment à vivre par les temps qui courent.
Exactement.
Sans compter aussi qu'on a conseillé de fermer les airs clim, etc.
Parlons-en parce que on est les trois en milieu scolaire.
Ouais.
Joe, je ne sais pas si tu as reçu un message ce matin de la part de ta direction de ton centre de service disant justement que les ados, les jeunes du secondaire et du primaire, c'est interdit d'aller à l'extérieur là, à cause de la qualité de l'air.
C'est seulement au primaire, au secondaire, il n'y a pas de règle.
OK, il n'y a pas de règles pour ça. Mais nous autres, au secondaire, je pense à toi aussi, mon cher.
Ouais. C'est pareil toutes les écoles.
Même pour les jeunes du secondaire, écoute, on a reçu un message ce matin disant les élèves du secondaire ne sortent pas de la journée. Et puis, s'il vous plaît, si vous êtes capable de pas ouvrir les fenêtres et même peut-être votre air climatisé, de l'aménager, eh bien, faites-le. Une chance qu'on n'a pas les mêmes chaleurs que la semaine dernière. Absolument. Il faisait à un moment donné, quoi, 35? 34-35 degrés la semaine dernière.
Puis c'était la même chose dans certains locaux.
C'est ça, puis il faisait 30-32 dans les locaux.
C'était fou.
Ça aurait été complètement dément cette semaine de ne pas avoir d'air climatisé, pour ceux qui en ont, heureusement, de ne pas les utiliser.
Mais à partir de demain, là, ils peuvent aller à l'extérieur, mais ne doivent pas pratiquer rien qui demande un effort. Fait que là, nous, on pense à nos Olympiades qui sont à venir. On a déjà pris la décision de les reporter dans l'autre semaine.
Il ne reste plus grand temps parce que là, la fin de l'année scolaire
approche. Les examens approchent, etc. Ouais. Donc, oui, c'est un peu le phénomène. Mais tu sais, les ados, c'est correct d'un sens, comme à Rouen, tu sais, ils sont capables de le dire si, exemple, ils vivent un malaise à respirer ce qu'il y a dehors, ou etc. T'sais, ils n'iront pas faire exprès ouais. Mais les plus jeunes, je dirais début primaire, puis je pense aussi dans les garderies, etc., ils ne sont peut-être pas toujours en mesure de pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils respirent moins bien. Donc, tu sais, il y a cette partie-là que je trouvais comme de prévention très intéressante. Puis là, je regarde, là, puis si c'est comme cet après-midi, ben, tu sais, il n'y a pas tant de risques pour personne à l'extérieur avec un grand vent comme ça, mais on ne sait jamais. On vient de voir la carte, c'est loin d'être éteint. Et puis les vents dominants nous apportent ça ici. Donc, on est comme un peu dans une espèce de loop avec ça qui fait qu'on va vivre les mêmes choses et, sans arrêt jusqu'à temps que la pluie arrive.
Exactement. Je crois, messieurs, qu'on va terminer l'épisode sur ces paroles-là. Avant de se quitter, j'aimerais juste passer un message, puis même, tu sais, on l'entend un peu partout, là. S'il vous plaît, il y en a des fans de camping qui ont hâte d'aller à des campings pour faire un feu. Hein? C'est le fun l'été,
entre autres,
de sortir de ta roulotte ou de ta tente, mm-hmm, de te faire un feu. De sortir la guitare, peut-être, mon cher Paumé, n'est-ce pas?
Oh oui!
Oui, c'est quand même assez plaisant. Je t'invite d'ailleurs à venir jouer de la guitare.
Ben, j'accepte l'invitation volontiers.
On va sortir nos guitares. Mais d'ici là, s'il vous plaît, écoutez les règles de la sécurité publique. Mm-hmm. Ne faites pas de feu. Si vous allez à votre camp de pêche, vous allez travailler à votre camp de chasse, l'été, c'est le meilleur moment pour aller faire des travaux sur... son camp de chasse, peu importe, au camping, ne faites pas de feu. Si vous fumez, n'éteignez pas, ne jetez pas votre mégot dans la forêt. Des choses très, très, très de base. Là.
Petit contenant avec du liquide, on met le mégot dedans, c'est réglé.
S'il vous plaît, parce que c'est vraiment, c'est une poudrière en ce moment. Là,
exact.
C'est vraiment du... On n'a pas parlé, mais le sol de la forêt, surtout de la forêt boréale, quand on pense... au feu qu'il y a dans le nord, à Chappey, à Lebesgue et Villon. La neige a tellement fondu vite cette année que le sol s'est asséché aussi très rapidement. Mm-hmm. Et puis, c'est du combustible.
Right.
Les feuilles, les épines qui ont tombé des arbres, c'est mm-hmm. du gaz. OK, right. Vraiment, là. Fait que s'il vous plaît, faites attention. Puis je pense que l'alerte est lancée un peu partout au Québec. Absolument. Interdiction de feu à ciel ouvert partout au Québec.
Les compagnies forestières qui se sont retirées aussi, ont retiré leur équipement pour, je pense, entre autres à Gelatem ici, qui ont arrêté leurs activités dans le bois, puis ils ont retiré parce qu'ils ont à cœur, justement, le bois, ils n'aimeraient pas qu'il y ait une situation faire en sorte que ça met le feu.
Exactement.
C'est notre source de revenus pour notre région, le bois.
Je pense que c'est quoi? C'est 15% de l'économie québécoise que c'est l'industrie forestière.
Absolument.
La forêt est importante. Okay? Oui, la pollution, mm-hmm, l'économie, etc. Okay? Il faut faire attention à tout ça.
Ouais.
Message de Francis Snow qui dit « J'entendais des feux d'artifice samedi. Le Québec a une grosse prise de conscience à prendre. » Ben ça, mon cher Francis, mm-hmm, que je salue, un de nos membres Patreon. Oui. Descends, descends, il va tout le temps en avoir.
7500 résidents.
Jean-François Snow.
Wow.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Bonjour, mon cher GF, qui dit 7500.
Ça veut dire qu'on rajoute les 2000 de Quévillon, plus ceux de Nord-Métal, la Reine et compagnie, on est à 10 000 personnes évacuées en Abitibi présentement.
Quand même.
On était au Québec, on était à 10 000 en tout. Là, on passe à presque 20 000 personnes évacuées au Québec à cause des feux de forêt. Où ces gens-là, je reviens là-dessus, Chibougamo, on va partir là-dessus, là, mais où ces gens-là vont aller, Chibougamo? Écoutez, Chibougamo, c'est quand même... une bonne, comme on dit par chez nous, c'est une bonne trotte là, du lac Saint-Jean quand même.
Quand même.
Tu sais, c'est pas une demi-heure de Saint-Félicien, là, genre, je créerais.
Non, non, puis le temps de pacter les petits et compagnie.
Ben, c'est ça, faire les valises, pacter les petits, puis non, c'est vraiment...
Ça va rouler de soir et de nuit là-bas, là.
Oui, exactement. Alors, c'est ça, là, je vous rappelle encore, je suis fatigué, on est le 6 juin, on vient d'apprendre que Chibougamau est évacué, 7500 résidents. C'est fou quand même.
De tout cœur avec la population
de
là-bas.
On est de tout cœur, oui. On est de tout cœur.
Je connais des Témiscamiens là, d'origine de Chibougamau aussi. Donc, ouais. Je pense à vous très fort.
Oui. Et puis, j'ai aussi...
49e parallèle qui passe au cash présentement.
Ah, vraiment. Hein?
Exactement.
C'est une forme d'apocalypse dans ce secteur.
Ben, c'est ça. C'est un peu...
Mes jeunes à l'école me demandent toujours ça va être quoi les conséquences des changements climatiques sur le Québec, sur le Canada. C'est exactement ça. Voilà. Parce qu'on est entouré d'arbres. Les inondations, pas tant, parce qu'on est dans une zone assez haute à cause du bouclier canadien. Les ouragans, on est loin des océans. Mais nous, c'est les feux de forêt parce qu'on est littéralement entouré d'arbres. Il n'y a rien qui est de plus qu'une forêt. Fait que c'est ceux encore, moi, je suis vraiment fâché et insulté et révolté contre ceux qui continuent à diminuer, à dénigrer puis à faire comme si de rien n'était. Quelle autre preuve hostie que ça va prendre pour que les gens allument qu'on a un problème et qu'il faut faire de quoi? Je comprends pas. Je comprends pas les espèces de Maxime Dernier de ce monde qui essaient de nous faire croire que c'est des actes terroristes pour passer des agendas de la gauche radicale, puis que les feux de forêt sont allumés par le gouvernement, puis que c'est un complot, puis que c'est ci, puis que c'est ça.
J'ai lu ça avant l'enregistrement, peut-être une demi-heure avant l'enregistrement de l'épisode, mais il a fallu que Radio Can. Et puis, sûrement que les décrypteurs vont en parler en fin de semaine, samedi matin. Mais il a fallu qu'ils disent non, OK, c'est pas vrai, c'est pas le gouvernement qui a allumé les feux. On est rendu là, tu sais, avec la pandémie qu'on vient de connaître, il y a encore des gens que tout est un complot, même des accidents de nature naturelle comme ça. Mm-hmm. Ça n'a aucun bon sens d'être rendu aussi creux dans ses croyances. C'est un rabbit hole incroyable. Dominique Richaud qui dit « Mon gros pick-up, mon choix ». Merci.
C'est exactement ça.
Merci Dominique. C'est ça, mon pick-up, mon choix. Fait que c'est une bonne parole, mon cher Paumé, mais je vais te laisser retourner dans ton pick-up, justement. Pour
aller chez vous. Mon gros pick-up.
Dans ton gros pick-up, un très beau camion.
Merci, c'est gentil. J'ai assez hâte de mettre la roulotte derrière. Et puis, mais ça ne sera pas cet été non plus. Là, c'est un projet là, en devenir. Toutefois, je confirme là, que j'accepte ton invitation. On va aller faire un petit tour sur le bord du lac. Ça passe à Tika.
Oui, ça serait très plaisant.
Aller taquiner la Chigan.
Ben, ce serait le fun que tu viennes.
Il y a de la Chigan dans le lac Passatica.
Écoute, ben oui, j'ai vu quelqu'un sortir un Chigan l'autre jour du lac Passatica.
Beaucoup de brochets, beaucoup de dorés.
Ça, je m'en avais dit, c'est surtout du brochet que je pensais.
Ouais.
La Chigan, il y en a là, il y en a dans le lac Témiscamingue aussi.
Ah, je te dirais les lacs dans ce coin-ci du Québec. Tu retrouves du bass, du doré, puis du brochet. Et puis cet été, ce serait le fun pour mettre une petite bouffe entre familles, les deux familles. Puis de façon, on va parler de nos plans de l'été suite à cet épisode. Merci, mon cher Jonathan Saint-Prof, de ta participation.
Fait toujours plaisir, Jay. Mais là, je suis fâché à cause de vous autres.
Ben c'est ça, là, je te sens. Il va falloir que tu ailles décanter. Peut-être qu'on pourrait se parler après l'épisode pour que je te fasse une tisane virtuelle.
Je suis tanné, les gars. Je suis tellement tanné. Calé, ce que ça n'a pas d'allure.
Ouais, je te sens écœuré. Puis avec raison, mon cher Jonathan. Sur ça, je te souhaite une très belle fin de soirée.
Merci.
Merci, mon cher El Paumé, de cette participation. C'est toujours plaisant, Anthony, de te recevoir dans Sur la Terre des Hommes.
J'adore notre setup pour faire des podcasts.
C'est cool, là, comme ça, quand tu viens chez nous.
J'aime bien ça. Puis en plus, je suis à proximité de toi.
Voilà. Ouais, voilà.
C'est réglé.
Voilà. Merci à nos abonnés et ceux qui étaient live avec nous pour cet enregistrement du 6 juin. Hein, je pense que je l'ai dit 10 fois pendant l'épisode. De ce 6 juin 2023. Merci à nos abonnés, justement, de nous suivre. Allez vous abonner, ceux qui sont là, live avec nous. Sachez que ce n'est pas juste des lives Facebook sur la Terre des Hommes, mais bien sûr, un podcast, un balado que vous pouvez retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et toute plateforme de balado-diffusion.
plusieurs heures à reprendre.
On parle d'à peu près 300 heures. Il y en a. J'ai vu Yves Nadeau tantôt. C'est un de nos membres Patreon depuis quelques mois. Et lui s'est dit, non, moi j'arrive, j'apprends l'existence de votre podcast. Je l'écoute du début jusqu'à aujourd'hui. Ben, il l'a fait. Puis je pense qu'il est arrivé vers l'épisode 200-210. Puis il les a tout clenché de 1 à 210. C'est fou, là. Là, on parle de quasiment, dans ça-là, 175 heures de stock. Alors, respect à Yves Nadeau de Balado Québec qui s'est tout retapé ça.
Wow.
Voilà. Alors, justement, en parlant de Yves, et puis j'ai vu Francis tout à l'heure, aussi un commentaire de François Brassard, qui sont trois de nos membres Patreon. Mm-hmm. C'est très simple. Sur la Terre des Hommes, écoutez, c'est bénévole ce qu'on fait. C'est toujours apprécié.
Ah ouais, je pensais qu'on était millionnaires, nous autres, de faire ça.
Non, pas encore.
Payé par le gouvernement.
Justement, on va recevoir un chèque de ce cher Justin.
Oui, pour avoir parlé contre Maxime Bernier.
Oui, oui, voilà, exactement. Mais non, c'est bénévole ce qu'on fait. On le fait avec passion, semaine après semaine, depuis 4 ans. Joe, ça fait 3 ans qu'à toutes les semaines, tu es là. Dans le fond, j'ai juste fait 1 an tout seul dans Sur la Terre des Hommes. Joe, c'est ça, t'es là depuis le début. Alors, merci mon cher Jonathan. Puis justement, pour nous encourager, et aussi, il y a des avantages à être un membre Patreon. C'est pas juste de nous donner 2$ par mois. OK, vous pouvez donner 2, 5, 10, 20$, mais 2$ par mois, ben vous avez les épisodes tout le temps en avance. Parce que cet épisode-là va être disponible dans 48 heures. Alors, pour les membres Patreon, eh bien, dans quasiment 45 minutes, eh bien, l'épisode va être disponible pour les membres Patreon. Et aussi des chroniques de radio que je fais, des anciens Historiarum. Ça fait 1 an qu'on n'a pas fait. Désolé.
Les Agora du prof sont encore là.
Les Agora du prof sont toutes là. Écoutez, il y a vraiment beaucoup plus de stock sur Patreon de Sur la Terre des Hommes que. Puis déjà qu'on en a beaucoup. Comme je dis, on a quasiment 300 heures de stock. Bien, là-dessus, il y en a peut-être pour 375 heures. OK?
Wow.
Si vous êtes pas tanné de nous entendre, allez, s'il vous plaît, sur patreon.com/SLTDH et rejoignez les curieux stagiaires historiens ou même, qui sait, devenir un commanditaire, un orateur de Sur la Terre des Hommes comme Construction avec un S Rivard de Rouyn-Noranda, qui est sur le point de faire de grands travaux chez toi, mon cher Jonathan.
Mm-hmm. En théorie, ça devrait être très, très bientôt, j'espère.
Oui,
génial.
Ça a été payant pour Construction avec un S d'être commanditaire parce que, regarde, il va se faire de l'argent sur ton dos.
J'ai hâte de voir. Oui, il n'a pas encore fini sa soumission, donc on s'en reparlera.
Et merci à Miel Abitémis de Saint-Bruno-de-Guigues qui s'est offert pour faire des avions canadiens remplis de miel pour aller faire ça dessus. Parce que ça a l'air qu'une matière collante.
Après ça, on va avoir une attaque d'ours généralisée. C'est vraiment ça.
Exactement. Fait que tu vois, j'essaie de plugger Miel Abitémis du mieux que je peux dans tous les épisodes et c'est encore mission accomplie. Hein? Ben, pas tant que ça, mais en tout cas, moi, je pense que
oui. Sur sa parole mielleuse.
Ouais, c'est ça. Alors, merci à nos membres Patreon. Je vous invite à aller rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Merci à Touski TV de diffuser tous nos épisodes le dimanche soir vers 18h. Alors, merci à Martin Godette et Touski TV de rediffuser nos épisodes. Je sais pas si ça va être encore d'actualité.
Et puis, je dis salut à toute la gang de la Touski Nation.
Oui, la Touski Nation. Alors, tous les gens, oui, des nouveaux abonnés de Sur la Terre des Hommes qui mm-hmm. apprennent à nous connaître, dans le fond, dimanche après dimanche, ça c'est pas vraiment, mais en tout cas, toutes les semaines, sur Touski TV, alors sur Twitch. Alors, je vous invite aussi, les abonnés de Sur la Terre des Hommes, allez vous abonner sur Twitch à Touski TV, quand même très intéressant, avec Le Crachoir et puis d'autres shows.
Exemple, ce soir, là, il y a un podcast là, sur des mystères, là, une espèce de podcast un peu là, true crime.
Infâme.
Excellent. Avec,
c'est vraiment
encore, encore une histoire de meurtre qui va m'empêcher de dormir.
Oui, c'est vrai. On en parlait au Salon du Livre. comment qu'il y avait beaucoup d'auteurs de true crime, etc. On salue.
Victoria Charlton était-tu?
Victoria Charlton. Oui, qui
a volé le show.
Vraiment, qui est la tête de proue du true crime au Québec.
La concubine de Bob le Chef qui s'en vient au Témiscamingue prochainement.
Oui, oui. Et puis, maintenant, on a vu.
Un tournage pour le lait bio le plus pur au Québec.
Ah, c'est super. Mais on a vu justement.
Le fromage au village.
On a vu, oui. On a vu au Salon du Livre que nous étions bien moins populaires que Victoria Charlton quand on a vu Joe la file d'à peu près, sans exagérer, de 150 personnes devant la table de Victoria Charlton qu'on salue très amicalement. Et puis que nous, ben, dans le fond, tout ce qu'on avait à faire, c'était de jaser entre nous autres et de commenter ça. Alors, c'était vraiment super. Alors, voilà. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mot. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.